Rebonjour à tous. Vous avez une présentation qui expliquait un peu la notion de communauté, comment on rentre à l'intérieur d'une communauté comme KDE ou comme n'importe quelle autre. Une manière d'appréhender la contribution quand on n'est pas développeur. Et maintenant, moi, je vais essayer de faire un peu l'autre partie qui est un peu plus mise sur l'accent sur le technique. Donc, déjà, j'ai une question. Qui est-ce qui développe un peu ou qui a des compétences un peu techniques en informatique ici? D'accord, donc. Monsieur Mont, je ne suis pas sûr. Hein. D'accord, très bien. Donc, il y a au moins plus de la moitié. Donc, c'est cool. Donc, le but de la présentation, ça va être clairement en fait, que vous compreniez en fait, trouver un point d'entrée dans la communauté KDE parce que, comme l'a dit Tim, il y a plein de. Il y a plein de manières d'accéder à ça, de développer. Et du coup, cette espèce de trop plein d'informations peut être démotivant. Et du coup, je vais essayer de vous donner des clés, des grilles de lecture pour que vous puissiez développer et vous sentir bien et que ça soit plus facile pour vous. Donc d'abord, je vais me présenter un peu parce que qui je suis pour dire ça. Donc je suis un étudiant. Donc il y a 2 ans, je faisais pas de KDE, par exemple. Enfin, 2 ans et demi. Et donc, si vous faites pas de KDE maintenant, je suis grosso modo ce que vous étiez il y a 2 ans. J'ai un master d'informatique, donc j'ai quelques compétences techniques. On peut très bien être autodidacte en informatique, il n'y a pas besoin de diplôme particulier tant qu'on sait à peu près manipuler l'outil. À travers la fac, j'ai eu un projet qui a été proposé, qui est le Tomahawk Music Player. Donc c'est un truc qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. En fait, j'ai eu la chance en fait d'avoir été pris par la main. Donc j'aimerais un peu vous redonner ça, en vous montrant un peu ce qu'il est possible de, enfin comment on peut facilement contribuer. Et rendre un peu l'appareil. Donc moi j'ai eu la chance de démarrer sur un projet qui était du C++ avec du Qt, qui était dans le giron de KDE. Après coup j'ai pu faire un stage de 3 mois sur une bibliothèque purement KDE. Et maintenant que j'ai été embauché dans une boîte qui fait du support Qt, sur mon temps libre je fais du Zenshin. Donc c'est les trois logiciels sont, enfin le premier est dans le giron KDE, les deux autres sont purement KDE. C'est une subtilité qui n'est pas nécessaire de préciser. Et Zenshin, donc c'est le logiciel sur lequel je contribue en ce moment, qui est un to-do manager, qui va être mon fil conducteur pour vous expliquer un peu comment, si vous voulez par exemple contribuer sur Zenshin ou sur n'importe quoi, la démarche va être étendue au cas général. Comment vous faites pour appréhender un projet, comment vous faites pour casser un peu l'aspect monolithique du projet qui est en face de vous, pour trouver un point d'entrée et être capable d'apporter un peu votre pierre à l'édifice. Donc voilà. Comme le disait très justement Bruno tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités, enfin plusieurs raisons qui peuvent vous amener à contribuer. Mais il vous en faut une en fait sur laquelle vous gagnez beaucoup pour que ça ait du sens sur le long terme. Si c'est juste un effet de mode ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de chances que vous fassiez une ou deux contributions et puis que vous arrêtiez. Donc si jamais vous voulez faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus persistant, trouvez-vous une bonne raison ou quelque chose qui vous accroche à ça. Typiquement, développer une application qu'on n'utilise pas, c'est très très compliqué. Ça peut paraître fun comme ça, dire ah il y a telle appli qui a l'air sympa, j'y vais, je développe 2-3 trucs. Si on l'utilise pas au quotidien, on va pas trop voir les bugs qu'on est en train de générer, ou pas avoir trop d'idées et on va vite lâcher l'affaire. Donc essayez si vous pouvez de prendre quelque chose que vous utilisez et qui vous fasse avoir un retour, un feedback assez rapide sur ce que vous faites, que vous puissiez avoir cette espèce de petite sensation d'excitement quand vous développez sur un projet. Donc voilà, vous savez, donc voilà, vous avez une bonne raison de développer, vous avez trouvé un projet. Quel prérequis vous devez avoir pour développer pour KDE? Grosso modo, c'est ces 3 trucs-là, à échelle plus ou moins variable, parce que la communauté KDE étant très ouverte, c'est assez facile d'apprendre avec KDE. On n'est pas obligé d'être un maître en C++, et de toute façon, comme l'a dit Bruno, il faut faire preuve d'humilité, parce qu'on trouve toujours meilleur que soi dans la communauté. Il y a des gens qui rattrapera pas, en fait. Donc, qui sont partis trop loin. Donc effectivement, il y a trois points un peu clés. Donc le C++, donc savoir un peu ce que c'est que le langage C++, les pointeurs, le langage objet de manière générale, avoir des notions là-dessus. Qt, donc l'API Qt, qui de toute façon est, enfin, qui est une API sur le C++ qui propose plein de services, plein de trucs dans plein de domaines différents, qui est très large. Faut savoir que faire du C++ et faire du Qt, c'est pas forcément pour KDE. Si vous savez faire ça, vous pouvez trouver un travail assez facilement, vous allez devenir bon dans des domaines très très recherchés. Donc c'est pas perdu, tout ça c'est pas de la veille technologique inutile, hein. c'est clairement très très important. Et Git, j'en parle même pas, c'est-à-dire que si vous arrivez sur une entreprise, enfin, dans une entreprise et que vous connaissez pas Git, qui sont sous Git, va falloir cravacher un peu. Si vous l'avez vu avant sur des projets, que ce soit à la fac ou que ce soit sur votre temps libre, etc., vous avez encore une marge d'avance, et de toute façon c'est un outil très très cool à utiliser. Donc voilà pour les prérequis. Donc vous êtes motivé, vous avez un projet, vous avez des prérequis qui sont à peu près satisfaits. comment appréhender un projet. Ça, c'est l'aspect un peu, voilà, la manière de comment on va décomposer le monolithe, parce que comme le disait Bruno tout à l'heure, tant que vous n'êtes pas dedans, vous avez l'impression que c'est moi et eux là-bas. Non, ça marche pas comme ça. Dans KDE, il y a plein de projets différents, il y a plein de repos différents. Je connais pas j'ai pas dû discuter avec plus du tiers des développeurs tellement il y en a à travers le monde. Donc faut arrêter de voir ça comme un monolithe. C'est des gens un peu partout qui font ça sur leur temps libre. Vous pouvez en être. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc je vais essayer de vous expliquer comment on déconstruit tout ça, et quand on l'a un peu décomplexifié, c'est plus facile pour nous après de s'insérer à l'intérieur. Donc pour appréhender un projet, il y a trois grosses étapes, enfin j'en vois grosso modo trois. C'est comprendre comment il se structure, se lancer, donc mettre les mains dans le cambouis au bout d'un moment, quoi, et contribuer, c'est donc arriver à l'étape finale où vous pouvez dire ouais, ça y est, j'ai la reconnaissance de mes pairs, etc., et avoir un t-shirt gratuit. Donc voilà. Comprendre. Donc comprendre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment casser le monolithe. Il y a plusieurs manières de faire ça. Donc je vais essayer de passer en revue un peu toutes les composantes, que ce soit au niveau de la communication ou au niveau des supports d'information, pour que ça vous paraisse clair. Donc premièrement, comprendre un projet. En général, il y a un site dédié, pas toujours. Je vais prendre l'exemple de Zenshin pour ce cas-là. S'il n'y a pas de site dédié, toutes les informations qui devraient être sur un site dédié seront sur le wiki de toute manière. Donc on va d'abord regarder le site dédié. En fait, l'idée d'aller sur le site dédié, c'est pour avoir une vision, enfin, comprendre la vision du produit ou du logiciel qu'a le mainteneur de ce logiciel. Sur Zenshin, par exemple, si vous voulez, c'est un gestionnaire de to-do. Pour comprendre un peu comment développer ou ce qui doit être inséré dans ce logiciel, il faut avoir une vision un peu globale, un peu systémique. Et pour ça, il faut avoir la vision du produit. Et en général, elle est décrite sur le site, sur le wiki ou sur le site dédié. Donc, on va aller voir le site dédié de suite. Donc sur le site dédié de Zenshin, vous voyez déjà un petit résumé qui explique. Alors le but, ça va pas être de lire ça, je vais vous expliquer assez rapidement. Il y a une phrase résumée qui explique grosso modo ce que fait l'appli, enfin ce que veut faire l'appli en tout cas. Quelques screens qui expliquent vers où elle va ou où elle en est en tout cas. Si on va sur la page feature qui est juste ici, donc feature, je suis sur voilà. On peut voir comment on peut commencer à attraper quelques concepts. On voit que l'idée, c'est d'abord de collecter ces données, d'organiser et enfin d'optimiser et d'être intégré avec le reste des applications KDE. Donc on commence à comprendre un peu comment c'est fait. C'est une vision très très générale. Là, c'est vraiment le truc que normalement quand vous avez choisi un projet, vous êtes déjà passé par cette étape. Mais bon, je le fais depuis le début. Donc ça, c'était pour le site dédié. Quand vous avez vu ça, normalement vous avez compris quelques concepts et vous avez une vision globale de vers où l'appli veut aller. Vous allez ensuite sur le wiki où là vous allez avoir une vision un peu plus zoomée sur comment est architecturé le projet, comment il se découpe, qui contribue, etc. Donc ça, c'est le wiki de KDE. Donc grosso modo, il y a plein de trucs à lire sur plein de projets différents, avec des sujets aussi, enfin qui mettent le pied à l'étrier comme getting involved, etc. Voilà, là vous avez une liste de projets, il y en a un paquet, donc si vous êtes intéressé pour voir pas mal de projets, ne serait-ce que par curiosité, se voir avec quoi vous pouvez vous intégrer, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les autres. En l'occurrence, nous on s'intéresse à Zenshin, donc on va aller sur la page wiki de Zenshin. Donc vous êtes déjà allé a priori sur le site dédié, vous avez vu un peu les concepts qui sont évoqués, et là il y a une vision un peu plus poussée. On peut voir déjà qu'il y a un concept de contexte qui est expliqué ici, donc on peut lire et comprendre un peu mieux, et il y a surtout un paquet de user story. Donc ce qui est une user story, pour ceux qui sont un peu techniques, c'est en fait un cas d'utilisation pour un utilisateur, ce que les gens peuvent faire sur l'application. Et on peut voir qu'il y en a qui sont barrés, d'autres non. Donc déjà, clairement, on commence à avoir une vision un peu plus claire de l'état d'avancement du projet. Le but, voilà, c'est de savoir où il va, ce qui est fait, ce qui reste à faire. Donc clairement, là, vous pouvez avoir déjà des idées, si je descends un peu plus, voilà. Je vois qu'ici, par exemple, ça c'est fait. En revanche, il y a des trucs qui ne sont pas faits. Et petit truc aussi qui est sympathique, les wikis sont pas toujours à jour. C'est un humain derrière qui fait ça sur son temps libre. Alors bon, le mec, il vient de faire le commit. Il a pas forcément pensé à aller derrière dans le wiki pour aller barrer la ligne. Donc au bout d'un moment, il faudra quand même parler à un humain, ce qui va arriver pour l'étape d'après. Mais déjà, vous pouvez avoir une idée des tâches qui sont à faire et commencer un peu à voir comment ça se découpe. Parce que là, on peut voir que du coup, il y a plusieurs en fait. Pas paquet, mais ordre de c'est trié par priorité. Donc il y a le concept de l'inbox, donc c'est là où vos to-do vont aller. Le concept de projet, c'est ce à quoi est rattaché un to-do. La base d'un workflow qui est évoqué ici, qu'on peut lire. Et en descendant comme ça, on voit un peu tout le découpage qu'il y a, toutes les fonctionnalités qui peuvent apparaître. et ça permet de mieux comprendre l'application. Mais comme je vous ai dit, il va falloir parler à un humain à un moment donné. Hein. Donc, pour parler à un humain, le mieux encore, c'est IRC. Moi, de mon point de vue, de mon expérience en tout cas, on ne peut pas faire du libre, je ne sais pas, mais en tout cas du KDE, sans passer par IRC. Je ne trouve pas la chose possible. Parce que forcément, ce que disait Bruno tout à l'heure et ce qu'a confirmé Tim, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver des acteurs clés, des gens avec qui vous pouvez converser pour avoir des discussions sur les décisions à prendre, ce que vous pouvez faire, ce qui est facile de faire. Parce que quand vous arrivez sur ce wiki-là, vous ne savez pas la complexité de chatage, vous ne la connaissez pas. Vous dites, bon, moi j'aimerais bien faire ça, d'accord, ça prend 200 heures, bon courage, démarre. Voilà, à un moment donné, il va falloir parler avec un humain, il va vous guider un peu sur comment faire et où aller. Et ça, vous pouvez le faire avec un canal de communication direct, par mail, ça, c'est possible, mais il n'y a pas cette impulsion et ce dynamisme que donne IRC et les communications directes. Donc clairement, il faut aller sur le channel de votre projet, qui en l'occurrence c'est Genshin, donc sur Freenode, c'est Diaz Genshin. Vous discutez avec le mainteneur, vous lui dites, au fait, j'aimerais bien participer à ton projet, je suis allé voir le site dédié, j'ai un peu la vision de ton produit, j'ai vu qu'il y avait ça, ça, ça et ça de possible. Ah non, ça c'est déjà fait. Ah d'accord, très cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre du coup? Bah là, il y a ça qui est facile à faire, tu pourrais démarrer par ça. Est-ce que tu as des notions de C++? Ouais, mais pas trop. Ah donc, prends pas trop ça, prends plus ça. Ou alors, va voir tel bug, il est facile à faire, il est facile à résoudre. Et comme ça, vous commencez en fait à trouver quelqu'un qui vous prend un peu par la main, parce que faut pas hésiter à parler à ces gens-là, parce que si vous voulez, c'est des gens qui font ça, qui développent une application sur leur temps libre. Quand vous arrivez et vous leur dites, au fait, j'aimerais bien t'aider, mais vous imaginez pas le bonheur que ces gens ont en fait. C'est vous les dérangez pas du tout. Ils sont super contents de se dire, bon, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider dans ce que je fais. Ça l'intéresse. Il y a de l'intérêt pour mon projet. C'est cool. C'est rentable. Donc voilà, hésitez vraiment pas. Bon, faut pas que ça devienne du harcèlement, cela dit, mais à part ça, hésitez vraiment pas. Ok, donc vous avez une vision un peu plus complète du projet, vous discutez avec un être humain qui vous a expliqué deux, trois ficelles. Maintenant, il va falloir récupérer le projet. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le dépôt Git. Je vais économiser du temps en vous montrant pas ce que c'est. Enfin, je peux vous le montrer, mais c'est très rapide. Donc, quand vous arrivez, voilà, il y a plusieurs manières d'accéder au repo. Donc, soit vous allez ici. Vous tapez dans KDE Project, vous tapez ici le nom du projet qui est Zenshin. Vous arrivez sur ceci. Je vais essayer de l'ouvrir sans me louper. Ok, donc vous arrivez là-dessus. Et là, vous pouvez aller voir dans le repository. Donc effectivement, vous allez voir le projet Git. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel projet. Vous allez avoir un lien sur lequel vous pouvez récupérer, cloner le projet en fait. Et ça va être à partir de là que vous allez avoir le source code et vous allez commencer à faire un lien entre tous les concepts dont vous avez parlé avec le mainteneur, tout ce que vous avez pu lire sur le projet, tout ce qui est découpe, et le code. En fait, ça va être votre première vraie interaction avec le code. Sinon, il y a aussi ce lien-là, Quick Git KDE, vous tapez Zenshin dedans, et vous finissez sur le même lien, sur la même adresse que ce que vous aurez eu avant. Donc ça, c'est pour récupérer les sources. Bon, c'est très basique ce que je suis en train de dire là. En gros, vous récupérez les sources, quoi. Autre chose intéressante, donc les bugs, le rapport de bugs, vous pouvez avoir un état d'avancement, enfin, ne serait-ce qu'une photo un peu à un moment donné, à un moment T d'un projet. En consultant les bugs, vous allez voir s'il y a beaucoup d'utilisateurs, s'il y a des bugs critiques, des petits bugs un peu faciles à régler. C'est toujours intéressant ça peut être intéressant de démarrer par des bugs pour faire ses premières armes sur un projet. En l'occurrence ici, donc voilà, sur la page de bugs, vous tapez ici Zenshin, vous arrivez ici. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques bugs, tous sont assignés au mainteneur. Et vous pouvez effectivement choisir un truc, donc discuter avec le mainteneur. Est-ce que ce bug pourrait être facile pour moi d'être résolu, etc. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence particulière? Et voilà, vous trouvez assez facilement quelque chose à faire. Autre chose, voilà, ça c'est plus dans l'étape d'après. Une fois que vous avez commencé un peu à comprendre comment s'architecturer le projet, à avoir discuté avec quelqu'un et que vous avez une idée en tête sur ce que vous voulez faire, voilà, commencez à se mettre sur les mailing lists de KDE. C'est plus une étape plus avancée quand vous serez déjà un peu plus dedans. Mais voilà, sur la mailing list du projet, toujours intéressant de voir les infos qui passent et les décisions qui sont prises par rapport au projet sur lequel vous voulez contribuer. Voilà, restez informé en fait. Donc voilà, il va falloir se lancer à un moment donné. Donc vous avez récupéré le code a priori. Donc qu'est-ce qui se passe? Va falloir créer un compte développeur. Si vous voulez à un moment donné pusher sur un dépôt KDE, va falloir avoir des droits. Donc je vous ai mis les screens ici pour comment créer un compte développeur. Vous allez sur le site qui est en bas, identitykde.org. En haut à droite, vous avez register. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez ici. Et ici, on vous... Il faut accepter les conditions. Ici, on vous parle d'un K2 Code of Conduct. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, quand on fait partie d'une communauté, comme disait Bruno justement tout à l'heure, il y a des valeurs communes, mais il faut qu'elles soient écrites quelque part. Donc, par exemple, il y a le K2 Code of Conduct. Bon, là, en l'occurrence, c'est un truc assez basique, c'est de la civilité pure. Hein. Si vous n'êtes pas des bêtes, a priori, vous correspondez à ça. Donc, c'est parler avec respect, pas insulter les gens sur les mailing lists, essayer d'agir en collaboration à peu près normal. Et il y a le manifeste aussi qui devrait être lu sur si vous voulez faire partie de la communauté K2, qui évoque en fait des valeurs et des choses sur lesquelles on se met d'accord. Donc, vous avez lu ça, vous avez accepté la page, vous avez mis votre mail et votre plus beau first name. Et donc vous recevez un mail qui vous dit hey, on vous a créé votre compte KDE. Pour avoir les droits de développeur, il faut demander au mainteneur de vous coopter en fait. C'est, donc vous allez voir le mainteneur, vous lui dites oh, ça y est, en fait, je suis prêt à démarrer, j'étais sourd, j'ai créé mon compte. Il valide tout ça et c'est parti, vous allez pouvoir commencer à pusher. Une fois que vous avez le compte développeur, c'est-à-dire le compte KDE avec les droits de développeur, c'est ce que je veux dire, vous pouvez pousser littéralement sur tous les repos. Enfin, oui. Donc c'est une communauté très ouverte. Une fois que vous avez ces droits-là, vous pouvez intégrer votre travail avec n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel projet de gens que vous ne connaissez pas. Enfin, il y a une confiance assez grande au sein de la communauté. Donc c'est de la confiance, mais il y a aussi une responsabilité qui va avec. Donc voilà. Donc pour vous lancer, vous avez besoin d'installer un environnement de programmation. A priori, si vous êtes un peu technique, vous en avez déjà un favori. Donc Qt Creator et Qt Develop sont les deux trucs un peu sympas pour du C++ et du Qt. Et je vous ai mis le lien en dessous, c'est un truc un peu sympa. Quand vous allez commencer à faire pas mal de KDE, que ce soit compliqué ou pas, vous allez vite avoir besoin de petites astuces de développement qui vous permettent d'aller plus vite, donc des scripts qui automatisent les compilations pour vous, ce genre de choses. Vous pouvez toujours, enfin, dans TechBase, il y a un paquet de trucs comme ça qui sont faits pour la productivité et qui vous apprendront énormément de choses quand on n'est pas encore aguerri. Il y a pas mal d'astuces auxquelles on pense pas et qui sont centralisées là-dessus. N'hésitez pas à y aller, vous apprendrez énormément. Donc vous installez votre environnement, vous clonez le projet, vous le compilez et c'est parti, vous êtes prêt à coder tout simplement. Donc pour contribuer, il faut tout simplement coder un patch. Donc vous avez soit un bug, quand je dis patch, ça comprend tout. Il y a ajouter une feature, comme disait tout à l'heure celui qui est intervenu, corriger un bug, améliorer les performances sur tel bout de code. Vous faites votre truc, enfin ce pourquoi vous avez été assigné et ce avec quoi vous avez parlé au mainteneur. Vous testez votre code si possible parce que chaque projet a des rigueurs différentes selon le mainteneur et la rigueur qui veut imposer sur son projet. Donc il y a des fois des gens qui disent bon tu me fais pas de enfin tu pas patch si ton code est pas testé, d'autres qui sont beaucoup plus souples là-dessus, d'autres qui veulent des tests d'acceptance, ce genre de choses. C'est vrai que le mainteneur, mais normalement vous avez discuté avec lui, vous avez déjà vu les modalités sur comment développer. C'est faut essayer de respecter ça aussi, c'est-à-dire que vous imaginez quand vous arrivez sur un projet, il y a un mainteneur, donc c'est un être humain qui passe beaucoup d'heures, son temps libre à développer une application pour des gens qui l'utilisent, qui fait ça gratuitement. Si vous arrivez et que vous voulez faire des patchs à tort et à travers et que vous respectez pas le peu qu'il a déjà essayé de mettre en place, ça va vite devenir problématique et compliqué. Encore là, encore une fois, c'est l'ouverture d'esprit, il suffit juste de réaliser ça. C'est pas moi et tout KDE contre moi en face, c'est des gens avec qui vous discutez, des gens qui sont pareils que vous au final, qui veulent juste passer un peu de leur temps libre à développer. Donc voilà, il y a Respect the Elder, qui est un concept assez... En fait, respecter les anciens. Mais c'est pas ancien au sens de vieux, c'est les gens qui étaient là avant vous, en fait. Donc voilà, avoir un peu ce notion de respect-là par rapport à ça. Donc vous codez votre patch, vous faites le minimum qui est demandé, enfin le minimum ou plus, qui est demandé pour que ça puisse fonctionner, que ça plaise au mainteneur. Vous améliorez votre patch jusqu'à ce que vous en soyez content. Quand vous êtes content, vous passez par un outil qui est fantastique, qui s'appelle la Review Board. Donc vous vous doutez que comme on est tous éclatés aux quatre coins du globe, pour la gestion du code on a Git, et pour la correction du code entre nous, parce qu'il n'y a pas d'outil automatique pour ça, faut qu'un être humain lise votre code, et l'outil qu'on utilise c'est la Review Board. Donc en l'occurrence c'est sur le site qui est là-haut, vous vous loguez, moi en l'occurrence il y a mon nom en haut à droite, avec votre compte. Il y aura l'installation d'une clé SSH, hein, il me semble. Peu importe. Donc vous arrivez là-dessus. Ici, en fait, c'est une liste de patchs. Avec Git, vous êtes capable, lorsque vous avez fait un commit, lorsque vous avez fait un patch, de le mettre sur un fichier. Vous uploadez ce fichier là-dessus. Ça va apparaître pour le mainteneur. Enfin, tous les gens qui contribuent au projet vont voir votre code, vont être capables de le review, de le corriger. Si vous avez fait une bêtise ou quoi, vous allez être capable de le voir. Ça prend cette forme-là, par exemple. Donc, sur un de mes commits, j'avais, bon, là, c'est un truc de syntaxe, donc c'est pas génial, mais j'avais mis l'accolade là où il fallait pas. Bon, en gros, ça a pris une demi-seconde où il m'a indiqué ça. J'ai coché, dire c'est bon, c'est corrigé. J'ai updaté mon patch. Et après coup, on récupère on se fait valider par nos pairs, en fait. Une fois que en l'occurrence, première ligne, je me fais engueuler en disant que j'ai oublié l'accolade. Seconde ligne, je corrige. Troisième ligne, on me dit OK, c'est bon, ship it. Ship it, ça veut dire envoie, c'est bon, c'est parti. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez pousser, donc profiter de vos droits de développeur pour pousser sur un dépôt KDE. Et yasta, vous avez fait votre premier commit sur KDE. C'est grosso modo tout ce qu'il faut. Il faut aller sur 2-3 sites web, comprendre un peu comment c'est fait, discuter avec un être humain, prendre une décision sur ce que vous voulez faire, télécharger un code source, le compiler, le comprendre à peu près, faire un bout de code, le proposer, une fois qu'il est validé, c'est fini. Selon la complexité de la tâche, ça peut prendre une heure comme une semaine, mais normalement vous démarrez par les trucs un peu simples, donc ça va assez vite. Et si c'est un logiciel que vous utilisez, assez vite vous vous retrouverez, une fois que vous avez fait votre premier commit, votre premier patch, à voir ce que vous venez de faire sur l'application. Vous allez être très content, ça vous donne envie d'en faire plus, ça vous donne d'autres idées sur des features possibles à implémenter, ça vous donne des bugs que vous pouvez corriger. Et plus vous mettez les mains dedans, plus vous connaissez le code, plus vous avez envie de le manipuler, plus vous avez envie de le corriger, de l'améliorer. Et vous finissez 2 ans et demi après à parler de KDE dans une conférence. Voilà, c'est grosso modo comme ça que ça finit. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci de votre attention.